Nous allons ouvrir la parole de Dieu, nous allons poursuivre bien sûr ce sujet sur la vie de l'Esprit, qui est important pour tous les croyants qui veulent voir l'œuvre de Dieu se faire. C'est quelque chose d'important, alors on va lire une lecture dans Luc au chapitre 24, au verset 30, Luc 24, c'est le jour de la résurrection. Le Seigneur est intervenu déjà plusieurs fois, et là, il va apparaître dans la chambre haute. Luc 24, verset 33. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai ». Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne se croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Je relis ce verset. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici... Pardon, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Le jour de la résurrection, le Seigneur leur est apparu et il a fait quelque chose qu'il fallait qu'ils vivent. Il leur ouvrit l'esprit. Ils avaient passé 3 ans et demi avec lui. Ils avaient été l'objet de la grâce, de la miséricorde, de la puissance, de la délivrance. Ils avaient vécu quelque chose de merveilleux. Il fallait qu'ils vivent quelque chose de supérieur par rapport à la vie de l'esprit. Le Seigneur les avait préparés dans un autre texte. Il est dit que Jésus a soufflé sur eux le jour de la résurrection. C'était une préparation au baptême du Saint-Esprit. Et ce que nous sommes en train de faire ces journées-ci, ces dimanches ou ces mardis, dans le cadre de ce sujet, je crois que le Seigneur veut nous préparer à une plus grande vie de l'esprit. Il faut que le Seigneur ouvre nos esprits. Ces apôtres étaient bénis. Ce matin, Jérémie faisait le cursus un peu de ce qui se passe lorsqu'on avance avec le Seigneur. Il nous sauve, il nous bénit, il nous amène au parler en langue, il nous amène aux dons spirituels, à l'exercice des dons spirituels. Et je pensais que c'est correct et tout, mais je pensais que dans l'église de Corinthe, où il y avait toutes ces manifestations, le Seigneur Jésus a quand même été obligé de les traiter d'enfants. Par le biais de l'apôtre Paul. Et ce n'est pas parce qu'il y a l'exercice de tous les dons spirituels que les chrétiens sont matures. Les chrétiens sont matures lorsqu'ils connaissent Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on vit certaines choses qu'on est en communion avec le Seigneur. Et ce que je voudrais, mes frères et sœurs, que nous comprenions, c'est que cette prédication, bien sûr, s'adresse aux chrétiens qui veulent le réveil. Je crois que c'est Spurgeon qui avait écrit un livre à ceux qui prient pour le réveil. Et il est certain que le ton sera un petit peu plus haut, peut-être, pour que nous comprenions que ce qu'ils ont vécu, Dieu veut que nous le revivions. Le Le jour de la Pentecôte, vous l'avez lu avec moi, lorsque Pierre a prêché, il nous a dit que toute la foule, qui avait déjà sa religion, et qui était très bien cette religion, elle les avait poussés à crucifier le Seigneur. Voyez un peu. Mais, mes frères et sœurs, le jour de la Pentecôte, ces gens religieux, durs, inflexibles, moqueurs, qui ont poussé à la crucifixion, ces gens-là, il nous a dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. L'apôtre Pierre s'est élevé après avoir été rempli du Saint-Esprit, après avoir été pardonné de son reniement. Il est là, il nous est dit que les onze sont là. C'est peut-être bien de le lire. Vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec cela, mais c'est quand même écrit dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous voyons comment ça s'est passé. Ils étaient tous là, les 120 étaient là. Ce n'était pas une affaire d'un Pierre, d'un homme qui a été choisi, tous étaient là. Regardez, alors, acte chapitre 2, verset 14. C'est important, c'est écrit pour que nous comprenions que la vie de l'Esprit, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, ce n'est pas l'affaire d'un homme, c'est l'affaire de toute une église. Acte chapitre 2, verset 14. Alors, Pierre se présenta avec les onze. Et après, au verset 15, il parle de tous ces gens qui sont là, dont il parle de tous les autres. Ils étaient ensemble. Dieu va les utiliser tous ensemble, chacun avec son don particulier, mais pour que cette expérience puisse se manifester, pour que le cœur de tous ces religieux, parce qu'ils étaient tous religieux, soit touché, il fallait d'abord que le Saint-Esprit fasse une œuvre en eux. Nous, on est là, on envoie le réveil sur Toulouse, envoie le réveil sur la France, convainc de pécher les pécheurs, c'est quelque chose que Dieu doit accepter. Mais une chose est certaine, ça ne se passera pas quand même tant que l'Église ne sera pas au préalable touchée par la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez? Ce n'est qu'une partie de la prière. La première partie devrait être, Seigneur, mais est-ce que nous sommes touchés? Le jour de la résurrection, Jésus a été obligé de leur ouvrir le cœur. Et il y a une préparation. On dit, Seigneur, envoie les dons. Et moi, je dis Amen. Je dis Amen, parce que c'est quand même la volonté de Dieu. Lors du baptême de Jésus, Jésus était saint. Il a toujours été saint. Tout le temps, pur. Jésus n'a commis aucun péché. Sinon, on ne serait pas là. Aucun pécheur n'aurait pu être pardonné. Malgré le fait que Jésus était saint, pur, sans tache, parfait, de tout temps. Et quand il était le Fils de l'homme, il a fallu qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Oui ou non? Il a fallu qu'il obéisse, même jusqu'à 30 ans. Il a obéi. Lui, le Fils de Dieu, il a attendu à 12 ans. Il savait très bien qu'il était le Fils de Dieu. Et il a attendu pendant 18 ans. Il aurait pu prendre les choses en main. Non, il a obéi. C'est pour ça que le jour de son baptême, il nous est dit que la colombe, le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Cela voulait dire que malgré sa sainteté, malgré sa pureté, et surtout par rapport à son obéissance, il y avait l'approbation de Dieu, puisque Dieu a parlé des hauts des cieux, et il lui a dit, voilà mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, parce qu'il était en train d'obéir en prenant le baptême, et en ayant attendu toutes ces années. Car n'oubliez pas quand même, il était Dieu. Dieu, bien sûr, dépouillé de gloire. Mais c'était Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Sur les 120. Une flamme de feu est descendue sur eux. Dieu bénissait leur attitude. Dieu bénissait leur obéissance. Le Seigneur avait dit, vous attendrez. Ils ont attendu. Ils ont certainement attendu dans une véritable crainte et une véritable piété. Dieu les approuve. Une flamme descend sur eux. Lundi à la pastorale, un pasteur nous a rappelé que lorsque Noé a lâché la colombe, elle est revenue. Elle est revenue. Et puis après, il l'a relâchée une deuxième fois, elle est revenue avec une branche d'olivier. Mais vous savez, ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu a permis que Noé envoie la colombe sur la terre qui venait d'être condamnée par le déluge et le jugement, la colombe n'a pas pu s'y poser parce que le Saint-Esprit ne se pose pas là où il y a le jugement et la condamnation. Le Saint-Esprit, il peut se poser que sur des nouvelles créatures. C'est pour ça qu'après, il s'est posé. Il fallait qu'il y ait une nouvelle création. Est-ce que vous me comprenez? C'est sérieux, parce que l'affaire du Saint-Esprit va nous amener, bien sûr, peut-être à rehausser un petit peu le niveau. Mais il faut le faire. Il faut donner du lait au bébé, il faut donner du steak haché aux petits-enfants, mais il faut donner un peu plus épais aux chrétiens qui veulent vraiment voir la gloire de Dieu et qui sont conscients qu'il faut aller beaucoup plus loin. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur les 120. Oui, la colombe n'a pu se poser que sur la nouvelle création après que la terre a été condamnée. Et ça sera de même pour chacun d'entre nous. Avant de commencer un ministère, quel qu'il soit, avant que l'Église retrouve une nouvelle onction, il faut retrouver la vie de l'Esprit. Jésus a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans le désert et après, il a été baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Il faut que le Seigneur ouvre nos yeux. Vous priez pour que Dieu vous ouvre les yeux? Beaucoup de chrétiens sont mais complètement aveugles. Complètement aveugles quant à ce qui concerne la vie de l'esprit et la vie de la chair. Et c'est vrai que c'est très difficile à discerner. C'est vrai qu'il y a même un exemple dans la Bible qui nous montre que c'est pas facile du tout à comprendre. Regardez quand Pierre va dire à Jésus, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a reçu une révélation, il a dû se tenir dans la prière, puisque Jésus lui dit, mais c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre devait avoir des moments où il se tenait seul devant Dieu, et Dieu lui avait dit, mais Jésus c'est le Fils de Dieu. Il l'avait compris plus ou moins, mais là il en était convaincu. Et lorsque Jésus, bien sûr, le félicite presque, il continue, il va parler de son œuvre au calvaire. Il va dire, voilà, mais il faut que le Fils de l'homme soit crucifié, et qu'il meure, etc., et qu'il ressuscite. Et Pierre qui va dire, ben non, Dieu ne plaise, ça t'arrivera pas. Et Jésus dit dans la foulée, arrière de moi, Satan, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut être spirituel et en même temps très charnel. C'est ça que ça veut dire. Et que même les meilleurs peuvent se faire piéger. Et que tout cela nécessite véritablement une ouverture d'esprit. Il faut que Dieu touche notre esprit pour que nous apprenions par la parole de Dieu, par la parole de Dieu qui est vivante, à séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Ça va prendre du temps. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on s'attelle à ce travail? C'est dommage que vous ne soyez pas tous d'accord. Est-ce que vous croyez que ça vaudrait la peine que tous les chrétiens qui ont soif de Dieu, se disent, on va, Seigneur, te laisser travailler nos cœurs. Tu vas ouvrir notre esprit. On va commencer à réfléchir, à savoir qu'est-ce que c'est qui est de l'âme. Parce que même beaucoup de prières viennent du niveau de l'âme. Je lisais cette semaine dans un journal universitaire chrétien qu'une femme qui dirige un groupe a fait un sondage par rapport aux prières. Et elle a demandé aux chrétiens, aux universitaires chrétiens qui veulent servir Dieu, voilà, quelles sont vos prières? Toutes les prières, c'est Seigneur, bénis mes partiels, bénis mes examens, je trouve un meilleur appartement. Alors, est-ce qu'il faut que Dieu bénisse les partiels? Oui. Est-ce qu'il faut que Dieu nous donne le meilleur appartement si celui qu'on a va pas trop? Oui. Mais mes frères et sœurs, si nos prières ne tournent que autour de nos intérêts personnels, il va falloir que beaucoup de temps passe pour qu'on voit certaines choses se produire. Je crois qu'il faut prier, mais je crois que ça devrait être secondaire. Et je crois que si on cherche le royaume de Dieu en premier, peut-être qu'on risque d'avoir un coup de pouce de la part du Seigneur pour les partiels et pour avoir un meilleur appartement. Vous le croyez ça, mes frères et sœurs? C'est sérieux. Pour faire l'œuvre de Dieu, il faut être spirituel. L'œuvre de Dieu, elle ne peut pas se faire d'une manière charnelle. Elle ne peut pas se faire même d'une manière intellectuelle. Un beau sermon, ça sert à rien, c'est du foin. Voilà ce que c'est. S'il n'y a pas la vie de l'esprit, le meilleur des sermons, si qualifié qu'il soit, c'est du foin, c'est de la paille. Ça produit rien du tout. Une excitation sur le moment et on n'a même pas de force pour arriver au dimanche d'après. Et vous savez que c'est vrai. Il nous faut du spirituel. Les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Ce qui est charnel, ça ne produit rien. Même si c'est enrobé de religiosité, de pseudo-spiritualité, de prières avec des larmes et tout, ça ne sert à rien. Il faut véritablement voir si l'affection de notre cœur, c'est l'affection de l'esprit ou l'affection de la chair. Et tout ça se passe dans l'intérieur de notre esprit. Et vous savez, quand il y a 15 jours, j'ai commencé, ou 3 semaines, à préparer le sujet, et je m'interroge moi aussi. Parce qu'avant d'être pasteur, vous savez quand même que je suis d'abord un chrétien. Et que je me suis interrogé, et je crois que le Seigneur m'a montré qu'en ce qui concerne le vase que je suis était un vase de terre. De terre. Et Dieu veut que nous soyons des vases d'or. Et pour Comme je l'ai dit l'autre jour, si vous devez demain aller acheter un vase de terre ou un vase d'or, vous savez que ça ne sera pas le même prix. Vous êtes d'accord? Si vous voulez acheter un vase de 10 kilos en terre, je ne sais pas combien ça va coûter, 25, 30 euros, 40 euros. Si vous voulez acheter un vase de 10 kilos en or pur, enchâssé de pierres précieuses sur la collerette, vous savez qu'il va falloir ajouter quelques zéros. Eh bien, c'est exactement ça. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer dans le renoncement, dans l'abnégation, dans la consécration. Et comprendre les choses. Je vous parlais de cette ambiguïté, de ce paradoxe qu'il y a dans l'amour charnel, l'amour spirituel. De toute façon, tout l'amour qui nous éloigne de la croix est charnel. Est-ce que vous comprenez? Je prendrai le temps de l'expliquer. Mais vous verrez que c'est facile à comprendre quand on met tous les textes ensemble. C'est pour ça que Jésus est capable de dire, mais celui qui aime sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et en même temps, il va rajouter dans la foulée, aimez vos ennemis. Vous voyez, si on l'aborde d'une manière intellectuelle, on ne comprend rien. Mais il faut bien comprendre que oui, il y a deux amours. Il y a un amour psychique que les païens ils ont de toute façon, qu'on avait avant notre conversion, et il y a un amour qui vient de Dieu. Et ça, il faudra bien le comprendre. Je pense que j'en parlerai mardi de cet amour, de ces deux amours. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, nous voulons la vie de l'Esprit. Nous voulons vraiment la puissance du Saint-Esprit. Moi, je crois que Dieu il veut bénir l'Église. Je crois que Dieu il veut bénir notre nation. Mais j'en suis convaincu. Mais ça va passer par des hommes et des femmes qui, avant de prier pour que les autres soient touchés, sont eux-mêmes d'abord touchés. Je prie et nous prions pour que les pécheurs qui rentrent ce matin dans ce lieu soient touchés. Il y a quelqu'un qui est là pour la première fois ce matin. Dieu veut toucher votre cœur. Mais mes frères et sœurs, le cœur des pécheurs sera d'autant plus touché que Dieu aura au préalable vraiment touché le nôtre. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à recevoir de Dieu. Il leur a ouvert l'esprit. Pourtant, ils avaient passé 3 ans et demi avec lui. Ils auraient pu dire, mais nous, c'est bon, on en sait. Quand vous savez, quand les deux disciples d'Emmaüs sont arrivés, tout excités d'avoir vu Jésus, ils étaient complètement paniqués, ils n'avaient pas compris. Mais ils auraient pu la jouer, vous voyez, et dire, mais t'inquiète, on le savait, on le sait. Mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu, elle ne se fera pas autrement que par l'onction du Saint-Esprit. Ne cherchez pas d'autres méthodes. Ça ne servira à rien. Vous allez vous épuiser. Le résultat sera pire que si on faisait rien du tout. Parce que ça sera charnel. Et la chair, ça sert à pas grand-chose. Non, à rien. Moïse. Prenons quelques exemples avant d'aller dans le sujet qui nous intéresse. Moïse, quand il a eu 40 ans, c'était un homme, 40 ans. Instruit dans la sagesse des Égyptiens, puissant en parole et en œuvre, prince d'Égypte. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà le leader, j'aime pas ce mot, voilà le leader, mais certains comprennent pourquoi je l'utilise, voilà le leader idéal pour faire l'œuvre de Dieu. On a un prince en Égypte qui a à cœur de délivrer ses frères. Vous savez comment il nous est parlé de Moïse, un homme rempli de sagesse, rempli d'intelligence, rempli de force. Il a même tué un homme. Il faut être fort pour tuer un homme. Mais quand même. Non, d'avoir ses deux mains quand même. Oui ou non? Un ouvrier qui est en train de bosser là. Voilà. Moïse, et pourtant, ça ne va pas faire l'affaire. Il va falloir que 40 ans passent. 40 ans. Dans le désert. 40 ans, j'ai calculé. 40 ans, je vais vous dire. Ça fait 14 600 soirées à s'endormir en regrettant de s'être trompé. Dieu préfère un vieux berger de 80 ans brisé qu'un jeune de 40 ans sûr de lui. Comme ça. Ça nous prouve que l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas par la force et par l'intelligence et par la sagesse que le monde pourrait nous donner. L'œuvre de Dieu, elle se fait avec des gens brisés, qui sont là et qui attendent qu'une chose, que Dieu puisse faire son œuvre. Quand Moïse a tué l'Égyptien, lui, il était satisfait parce qu'il s'est dit, tout le monde va comprendre que je vais délivrer Israël. Il pensait que. il aurait tué un Égyptien tous les matins au petit déjeuner, ça n'aurait rien changé. Rien. La délivrance ne serait pas venue. Dieu veut des hommes brisés. Joseph, le jeune homme de 17 ans, préféré de papa et de maman, revêtu de super habits, est-ce qu'il aurait pu faire l'œuvre de Dieu? Non. Quand, quelques jours plus tard, enchaîné au dos d'un chameau, il est parti en Égypte, Dieu commençait à faire un homme de Dieu. Ça a pris que 13 ans, mais Dieu a fait de ce jeune homme un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Et c'est ça, on veut vraiment être rempli du Saint-Esprit. Il va falloir que Dieu nous vide de nous-mêmes. Il va falloir que Dieu nous brise certaines choses, que nous apprenions à crucifier la chair avec ses passions. Il y a des choses en nous qui sont charnelles, oui ou non? Pour les uns, ça va être peut-être la nourriture, pour l'autre, ça va être l'alcool. Alors, est-ce que c'est bien de manger? Est-ce que c'est bien de boire? Bien sûr, l'apôtre Paul explique, c'est pas ses préceptes, ne goûte pas, ne touche pas. Tout ça, c'est autre chose, c'est beaucoup plus sérieux. On ne fait pas l'œuvre de Dieu avec ses propres forces. Saul de Tarse, il servait Dieu avant sa conversion. Pour qui il persécutait l'Église? Pour qui il le faisait? Pour Dieu. Il était, il l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Il a dit qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. Voilà comment Paul témoignait de lui-même avant sa conversion. Irréprochable à l'égard de la loi, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les gens. Partout où il passait, il semait la mort. Voilà ce que Dieu lui avait fait faire. Attention, c'est entre guillemets là. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que prendriez-vous pour faire l'œuvre de Dieu? Un prince d'Égypte ou un berger de 80 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut prendre des gens qui ont passé du temps dans le désert, qui souffrent de voir certaines choses autour de nous. Je suis sûr que Moïse, pendant ses 40 années, a dû s'endormir souvent, avec cette image de cet Égyptien qu'il avait tué quand même. Il a dû s'endormir avec toutes ces erreurs qu'il avait faites en quelques heures. Mais Dieu n'abandonne jamais avec tous ceux et celles qui veulent vraiment voir sa gloire. Mais il y a du travail. Et c'est ça que Dieu veut faire. Ce que Dieu veut faire, c'est d'abord toucher notre cœur. Est-ce que mes frères et sœurs, vous aspirez d'abord à ce que Dieu vous touche? La volonté de Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Et c'est pas les autres. Par pitié, ne dites pas, mais moi, si je peux pas faire la volonté de Dieu, c'est à cause de ma femme qui est pas convertie, à cause de mon mari qui est pas converti. Si je ne peux pas faire la volonté de Dieu, c'est parce que les circonstances, ou parce que je n'ai pas d'argent, ou parce que j'habite loin de l'église, ou parce que je suis tout seul dans ma famille. Non, la seule personne qui peut vous empêcher de faire la volonté de Dieu, c'est vous. C'est vous. Vous entendez, mes frères et sœurs? Ne pensez pas vous présenter un jour devant le tribunal de Christ en disant, tu sais, Seigneur, si je n'ai pas pu faire l'œuvre de Dieu, c'est à cause de ma femme. C'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause de mon boulot. J'étais vachement pris par mon travail, j'ai pas pu faire ta volonté. Ne pensez pas vous présenter devant Dieu. Amen. De cette façon-là, ça se passera pas bien. Mes frères et sœurs, la seule personne qui vous empêchera de faire la volonté de Dieu, c'est vous-même. Alors, si nous voulons que les autres soient touchés, mes frères et sœurs, il faut être touchés. Il faut que le Seigneur nous touche. Vous avez vu Ésaïe, vous connaissez Ésaïe, vous connaissez le chapitre 6 d'Ésaïe. Ésaïe a commencé son ministère avec la benne de Dieu. Il va pendant des années travailler avec l'approbation de Dieu. La preuve, il y a ces 66 chapitres qui nous parlent de tout ce qu'il a pu faire pendant son ministère. Et pendant longtemps, il a été en bénédiction, il a prononcé des prédications qu'il fallait avec des jugements sévères sur les autres, etc., etc. Il était sévère dans ce qu'il devait dire. Et c'était la volonté de Dieu, c'est écrit. Jusqu'au jour où l'année de la mort du roi Ozias, je crois qu'il a vu quatre rois cet homme pendant son ministère, quatre rois. L'année de la mort du roi Ozias, il est dans le temple. Vous savez, quand un roi meurt en Israël, c'est la porte ouverte aux attaques du diable et des ennemis. C'était la solution facile pour attaquer Israël, mais c'est facile à comprendre. L'année de la mort du roi Ozias, Ésaïe, il n'est pas en train de préparer les sermons, il est en train de se tenir devant Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé. Alors pour ceux qui l'ont jamais lu, on va quand même le lire. Ésaïe chapitre 6. Déjà, beaucoup de temps a passé, son ministère a été béni. C'est clair, les cinq premiers chapitres, bon, c'est pas facile à lire, surtout pour ceux qui étaient concernés. Ésaïe chapitre 6. Regardez ces huit premiers versets. Et la question du dernier verset que nous allons lire, qui est dit au pluriel, Dieu parle au nom de la Trinité divine. Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu !» Car je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera ?» Pour nous, Dieu parle au pluriel, il inclut le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il était déjà serviteur de Dieu, il était déjà béni de Dieu, approuvé de Dieu. Les 5 premiers chapitres, c'est clair, nous le prouvent. Mais il voulait aller plus loin. Et je crois que parmi nous, c'est un petit peu pareil. Il y a des gens qui sont loin de Dieu, qui n'ont pas du tout de piété. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des gens sérieux, qui ont une vraie piété, qui veulent aller plus loin avec Dieu, qui sont conscients que Dieu les a déjà bénis, Dieu les a déjà utilisés. Mais voilà, c'est pas la mort du roi Ozias qui nous préoccupe à nous. C'est la mort de notre nation. C'est la mort des églises. Oui ou non ? C'est la mort des pécheurs autour de nous qui font que s'enténébrer. Et quand je pense qu'il y a des chrétiens qui s'imaginent qu'en votant plus d'un côté ou plus de l'autre, les choses pourront changer, les choses empireront. Tenez-vous le bien pour dit. Les choses empireront jusqu'à la fin. Et le seul moyen, c'est une église où, comme Ésaïe, des gens disent, c'est vrai, il y a la mort autour de nous, mais nous avons un Dieu vivant. Sa robe peut remplir tous les temples de la terre. Le Seigneur peut remplir chacun de nos cœurs. Et nous pouvons tous dire, Seigneur, c'est vrai, parce que lui, il avait souvent dit, si vous lisez les 5 premiers chapitres, ça cognait fort quand même. Malheur aux uns, malheur aux autres qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Bon, mais ça, c'était quand même la volonté de Dieu. Mais là, il va pas être centré sur son ministère. Il va être centré sur son cœur. Malheur à moi. Ah, ce que je dis, c'est pas bien. Ce que je dis, ce que les autres disent, ça va pas. Et l'ange de l'Éternel va aller lui toucher les lèvres. Mes frères et sœurs, avant que les autres soient touchés, il faut que Dieu commence à toucher nos lèvres, notre langue, notre bouche. Il faut que notre corps soit touché, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre bouche, notre langue et nos lèvres font partie de notre corps. Et Dieu dit que pour discerner la volonté de Dieu, il faut, dans les compassions de Dieu, parce que si ce n'est pas pour les compassions de Dieu, pour le salut des âmes, l'édification de l'Église, à quoi ça sert ? C'est pour les compassions de Dieu, il nous exhorte à offrir nos corps. Notre bouche, il aurait pu dire, dans le corps, il y a la bouche, il y a la langue, il y a les lèvres. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain, ce qui sera un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde et vous discernerez la volonté de Dieu. Et Ésaïe, il a été touché et nous avons besoin d'être touchés. Il faut que nos lèvres soient touchées. Il faut que notre façon de parler soit différente. Et vous lirez Ésaïe et vous allez voir au travers des 4 rois qu'il a pu conseiller, vous allez voir la bénédiction d'ailleurs des textes qui nous concernent à nous sur l'enlèvement, les nouveaux cieux. Que de textes cet homme a apporté. Ces 66 chapitres sont la preuve que c'était pas une blague le jour où l'ange a touché la bouche d'Ésaïe. C'était une bénédiction. Seigneur, touche ma bouche. Amen. Touche ma bouche. Est-ce que c'est important pour vous ? Il faut que Dieu touche nos lèvres. Il faut que le feu de Dieu, on l'a chanté si bien ce matin, que le feu de Dieu, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, par ton esprit à moi bouillant. Voilà ce que nous avons besoin, que Dieu touche notre bouche quand on entend parfois des propos. Cette semaine, il m'a fallu presque intervenir auprès de 2 sœurs qui allaient se chamailler devant une nouvelle. Ça fait pitié, vraiment. 2 personnes qui ont pris le baptême. Pour qu'il y ait cette vie, il faut qu'il y ait l'affection de l'esprit. Car l'affection de l'esprit, c'est la vie. Quelqu'un qui est attaché au Saint-Esprit, il communique la vie. Ésaïe a communiqué la vie. Il communiquait des paroles de Dieu et à partir du chapitre 6, il communique une vie extraordinaire. Alors, il faut comprendre cela. Les pécheurs, je le disais un peu tout à l'heure, j'y ai fait allusion, j'ai pas le temps. Les pécheurs, de quoi ils ont besoin? Quoi ils ont besoin? D'un beau sermon? Un beau sermon. Intelligent. Raffiné. Travaillé. Comment? Vous trouvez pas que vous priez pour ça, que j'ai des sermons raffinés? Comment non? Le plus beau sermon, le mieux travaillé, s'il n'y a pas la vie, c'est de la paille. Le pécheur, on pourra lui faire verser quelques larmettes parce que ça, on peut y arriver. Mais il ne changera pas. Il faut que ça soit la vie du Saint-Esprit qui le touche. Mais si le pécheur a besoin d'être touché par le Saint-Esprit, les croyants aussi. Nous avons besoin d'être touchés par le Saint-Esprit. Et mardi, quand je commençais ma journée, j'avais prié, j'avais fait mon culte personnel, etc. Et le matin, vous savez, parfois le téléphone, il y a des fois beaucoup de choses. Et je pensais, parce que j'avais prié pour Monsieur Antiche, et je savais qu'il allait pas bien. Et je me suis dit, il faut aller le voir. Alors tu vas purement, et je le fais, et j'y vais de bon cœur. Et le Saint-Esprit m'a dit, non, n'y va pas. Il m'a montré qu'il y avait des choses plus urgentes que certains besoins. Ce qui est urgent, c'est que l'Église entende le Saint-Esprit lui parler. Les pasteurs, ce ne sont pas des courseurs qui vont faire ci ou là. Ce sont des hommes qui doivent se tenir dans le trône de Dieu pour recevoir la pensée du Seigneur. Et j'ai honte pour toutes les fois où j'ai honte, oui, par rapport à vous, parce que je me dis, il faut faire les visites. Si tu ne fais pas les visites, on va te critiquer. Vous voyez comment je suis spirituel. Et je le pense, c'est vrai. Écoutez, on ne va pas faire du cinéma. C'est vrai ça, j'ai honte, je vous le dis franchement, j'ai honte. Et je sais que j'ai désobéi à Dieu, bien souvent, parce que je crois que j'ai voulu faire plus plaisir aux hommes qu'à Dieu. Mais il me semble que si on veut voir la gloire de Dieu, il faudrait qu'au moins les serviteurs de Dieu commencent à se tenir devant le trône. Peut-être plus consciencieusement pour qu'eux commencent à recevoir la vie, et non pas distribuer du foin et la paille. Les chrétiens, eux aussi ont besoin d'une vie abondante. Vous avez besoin d'une vie abondante et non pas d'un sermon sophistiqué qui va peut-être vous émouvoir le temps d'une réunion et que vous allez tout perdre dans 2 heures. On a besoin d'être touché par le Saint-Esprit. Et beaucoup de chrétiens sont là, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont besoin tout à nouveau d'être touchés. Alors souvent ces chrétiens-là sont épuisés parce qu'ils se sont consacrés aux autres et Dieu le voit et Dieu en tient compte. Et Dieu fait reposer malgré tout une mesure de grâce sur ces chrétiens-là. Mais mes frères et sœurs, nous avons besoin d'une vie abondante. Nous avons besoin de savoir chacun ce que Dieu attend de nous. Il faut que le Seigneur nous touche, il faut que le Seigneur rentre dans notre maison, comme quand il est rentré dans la maison de la belle-mère de Pierre, ou la maison de Pierre. C'était la maison de Pierre ou de la belle-mère de Pierre, la famille. Il est entré à la maison. Et il nous est dit que la belle-mère de Pierre était couchée à la fièvre. Et que Jésus est entré. Mais pour ça, il fallait qu'il rentre. Et c'est ça le problème. Pour que Jésus puisse poser sa main sur la nôtre, il faut qu'il puisse déjà rentrer dans la maison. Parce que s'il est dehors et qu'il frappe et que personne n'entende, ça va être difficile d'obtenir la guérison de la fièvre. Ce matin, en finissant de préparer cette prédication, je pensais à toutes les fièvres. Je me suis rappelé quand j'étais à l'armée, en Polynésie, il y avait ce qu'on appelle la dengue. C'est un moustique, ça vous rend fou. C'est pour ça qu'ils ont appelé la dengue. Les gens, ils racontent n'importe quoi. Oh, quand c'est au pic de la fièvre, les gens, ils sont sur le lit, ils sont dans tous leurs états. Moi, ça, la première fois que j'en ai vu un à l'infirmerie, ça m'a fait drôle. Et ce matin, Dieu m'a rappelé cette image, quand j'étais à l'armée, où j'ai vu quelqu'un qui avait la fièvre, parce qu'il y a plusieurs sortes de fièvre. Il y a 38, il y a 39, il y a le paludisme, et il y a la fièvre jaune et tout le reste. Mais mes frères et sœurs, combien de chrétiens ont la fièvre et commencent à radoter? Et mes frères et sœurs, la seule alternative, je pense radoter spirituellement, si vous savez moi des fois tout ce que j'entends. Seigneur, pose ta main sur la mienne, que je puisse te lever, me lever et ne pas être paralysé. Qu'est-ce qu'elle a fait la belle-mère de Pierre de suite? elle s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a servi. Mes frères et sœurs, à quoi reconnaît-on quelqu'un qui n'a plus la fièvre, qui n'est plus malade? C'est qu'il se lève pour servir le Seigneur. Personne n'aurait pu empêcher cette femme de le servir. Personne, même pas le Seigneur. Elle voulait le servir. Et combien de gens sont alités spirituellement? Ils ne peuvent pas, ils ont le désir. Mais la chair, même l'esprit est bien disposé. Mais la chair, vous savez le reste. Mes frères et sœurs, combien parmi vous avez la fièvre? Vous ne pouvez pas vous lever. Mais le Seigneur, il est dehors et il faut qu'il rentre. Seigneur, est-ce qu'il va vous aider? Est-ce que Dieu était prêt à aider Isaïe? Est-ce que Dieu a dit, ouais, mais bien sûr que tu as des lèvres impures, mais bien sûr, tu me fais pitié. Non. Le Seigneur, de suite, dès qu'il voit un cœur qui est disposé, vous croyez que Dieu va vous faire attendre et vous faire piétiner pendant des semaines pour avoir la victoire? Ce matin, Dieu veut vous donner la victoire. Ce soir, peut-être, plutôt que de regarder la télé, de vous tenir devant le trône et de dire, Seigneur, touche mes lèvres, touche ma main, il faut que je te serve. Dans l'église, il y a des besoins. Moi, vous voyez les visites. Je suis bon, il y en a qui m'aident de plus en plus. Et merci du fond du cœur. Vraiment, ça me touche. Mais chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, et c'est quand même mon rôle de vous aider à le comprendre, chacun d'entre nous, une fois que nous avons été sauvés, nous devenons des adorateurs et des serviteurs. Et si vous ne faites rien, c'est que vous êtes plein de fièvre. Si vous ne faites rien dans l'église, vous pouvez trouver les excuses que vous voulez. Vous avez ci, vous avez là. Peut-être que Dieu vous demande de vous occuper de vos enfants. Il y a une sœur dans l'église qui a 5 ou 6 gosses. Je suis sûr que pendant des années, Dieu va lui demander de s'occuper de ses enfants, etc. Mais il y a une chose qui est sûre. Quand Dieu nous a guéris de la fièvre, on se lève pour le servir. Et on fait avec joie, c'est pas une corvée. Si servir Dieu c'est une corvée, reposez-vous, arrêtez le service, tant pis on s'arrangera, arrêtez le service, et puis demandez à Dieu ce qu'il veut que vous fassiez. Servir Dieu c'est un honneur, on en parlait hier soir avec mon fils, c'est pas un honneur qu'on fait à Dieu de le servir, c'est lui qui nous fait un honneur. Même une reine se convertirait, elle n'aurait pas intérêt à se pointer, à dire, tu vois, je suis la reine de tel pays, tu te rends compte de l'honneur que je te fais. Il faudrait que je lui dise dans le creux de l'oreille, attends, c'est lui qui te fait l'honneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Et quelqu'un qui a la fièvre, ben demandez-lui si vous êtes paralysé, couché sur votre lit spirituel, parce que quand on a de la fièvre spirituelle, on n'en a pas peut-être pour le reste. Parce qu'il y a déjà, ils ont de la fièvre pour leur esprit, mais ils n'en ont pas pour leur âme et pour leur corps. Alors là, pour le corps, ils en ont de l'énergie. Pour aller courir 20 km, ça, ils ont de l'énergie. Ils ont de la fièvre spirituelle. Et si vous avez de l'énergie pour votre âme et de l'énergie pour votre corps, mais que vous n'en avez pas pour votre esprit, c'est que vous êtes malade. Mais Dieu veut vous guérir. Et je crois qu'on a vite fait de dire malheur aux autres, comme Isaïe qui disait malheur à vous, malheur à eux. Bon, jusque-là, c'est facile de prononcer certaines paroles sur les autres personnes. C'est plus difficile de dire, Seigneur, malheur à moi. Mais touche-moi quand même. Dieu n'a pas attendu. Dieu ne nous fait pas attendre. Nous avons un Dieu qui est grand et qui est plus pressé que nous à bénir Toulouse et notre pays. Oui, il y a la mort autour de nous, mais quand Jésus passe, je le disais, je crois, mardi, les 3 fois où il a rencontré un mort, il les a ressuscités. Heureusement, quand il se rendait dans les villages, il ne passait pas par les cimetières. Les 3 fois où il a rencontré un mort, il les a ressuscités. Parce que là où il y a Jésus, il y a la vie et la résurrection. Dans une église, s'il y a l'Esprit de Dieu, dans l'esprit des croyants qui a toute la latitude, il y a la vie. C'est comme ça que nous verrons les pécheurs se convertir. Parce qu'il y aura la vie dans l'église. Vous comprenez, mes frères et sœurs, c'est ça que Dieu veut. Alors, c'était les lèvres d'Ésaïe, c'était la main de la belle-mère de Pierre. Mais vous avez vu dans les évangiles le nombre de fois où Jésus a touché les oreilles d'un sourd? Que de chrétiens sont sourds? Que de fois Jésus a dit au peuple de Dieu, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Alors, Seigneur, eh bien, moi, c'est les yeux. J'y vois rien, j'ai aucune vision, j'ai peur du lendemain. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, je serais étonné qu'il ait peur du lendemain. Étonné. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça. Il est rempli d'espérance. C'est une palisse. Une palissade, comme disait M. Lafayette. Voilà, c'est une vérité. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli d'espérance. Alors, Seigneur, touche mes yeux. Les chrétiens de la Odyssée étaient férus aussi dans les œuvres, etc. Mais comme je l'ai dit à tout à l'heure, à Corinthe, il y avait tout. Il y avait tout. Et pourtant, Dieu est obligé de les traiter d'enfants spirituels parce qu'ils ne recherchent pas la communion avec Dieu. C'est grave. Mais Dieu leur a donné la réponse. Et ce matin, Dieu nous donne les réponses. Seigneur, oui, je veux utiliser mes mains pour te servir, mais j'ai plein de fièvre. Je veux bien marcher où tu voudras, mais j'y vois rien. Alors Seigneur, ouvre mes yeux. Je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Quand est-ce qu'il pourra rentrer dans ton cœur? Quand est-ce que tu pourras lui dire, Seigneur, oui, touche mes oreilles, j'entends rien. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur, il vous parle. Il y a un verset qui va vous interpeller. Il y a un verset qui va vous faire peut-être pleurer ou qui va vous réjouir. Mais que Dieu nous parle. Alors Seigneur, touche mes mains, touche mes lèvres, touche mes oreilles, touche mes yeux. Seigneur, touche-moi, je t'en supplie. Je ne veux plus avoir de la fièvre. Je veux me lever. Oui, dans une église de 400 personnes, les 400 personnes doivent servir Dieu. Dans une église de 20 personnes, les 20 personnes doivent servir le Seigneur. Vous êtes d'accord? Alors, est-ce que vous prierez pour moi pour ce sujet? Vous êtes d'accord qu'on épaississe le steak? Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin? Mes frères et sœurs, est-ce que nous comprenons que c'est une affaire sérieuse? Il y a une préparation et je crois que le Seigneur nous bénira. On va fermer les yeux, s'il vous plaît. Pendant qu'on va chanter ce chœur, « Oh, si je me tais, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger », il y a peut-être quelqu'un qui dit « Moi, il faut que, Seigneur, tu me touches. Seigneur, mes lèvres sont impures. Je salis ma maison. Je salis l'église. Je salis mes voisins. Je salis mon patron. Je salis ma femme. Je lui parle mal. Mes lèvres sont impures. Touche-moi par le feu de ta présence. » Seigneur, je suis paralysé, j'ai la fièvre, ça fait 3 ans que je suis dans cette église, 3 ans et je fais rien, et j'ai trouvé 3 000 excuses. Seigneur, touche ma main fiévreuse. Je ne sais pas si c'est 37,5 ou 41 de fièvre. Je ne sais pas si vous délirez ou pas, ce n'est pas grave. Que Jésus vous touche. Vous pouvez peut-être plus rien faire pour Dieu. Je vous en supplie. Apprenons à écouter la voix du bon berger. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui dit « Jésus, j'ai besoin que tu me touches. » Levez-vous à votre place. Je vais demander à Jérémie de nous faire chanter ce cantique. Mais je voudrais prier pour ceux qui tout simplement éprouvent le besoin de se lever à leur place et de dire « Seigneur Jésus, je veux que tu me touches. Ça ne peut pas durer. J'ai une bouche impure. J'ai un cœur impur. Ça ne va pas. Seigneur, touche-moi. » Il le fera. À condition, bien sûr, que ce soir, vous ne retourniez pas. Vous voterez dans l'impureté. Il le fera s'il voit comme Esaïe que vous allez vous déterminer. Dieu sait ce qu'on va faire de ce qu'on va lui donner. Il y a peut-être quelqu'un qui éprouve le besoin de venir sur le devant et dire « Moi j'ai besoin qu'on me touche les mains, qu'on me touche, j'ai besoin de l'imposition des mains, j'ai besoin d'un attouchement divin, j'ai besoin de sa vie. » Eh bien avancez-vous. On est dans le recueillement, c'est sérieux. Dieu voit. Qui enverrai-je? Je ne sais pas comment Dieu a dit ça. S'il l'a dit avec de l'émotion, des pleurs, ou de la fierté parce qu'Esaïe était en train de changer. Mais je suis convaincu que du haut du ciel, Dieu peut se lever et dire, mais qui enverrai-je pour sauver les perdus? Qui enverrai-je pour communiquer la vie dans les églises? Qui enverrai-je pour qu'à la place du foin, il y ait la vie et la résurrection dans les églises? Qui enverrai-je? Qui marchera devant nous? C'est sérieux, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre assemblée, ce n'est pas notre église, ce n'est pas un pasteur, une dénomination qui veut faire des progrès. C'est le cœur de Dieu qui veut voir la gloire se manifester sur notre humanité qui est en deuil, qui est malade et dont les membres de l'église sont parfois atteints. Alors que sa volonté soit faite, laissez Dieu toucher vos yeux, vos oreilles, vos mains et vos lèvres. Ainsi que les miennes aussi. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.